Salam, bienvenue dans cet épisode de Machir Joula, le podcast qui repense les masculinités. Alors dans cet épisode, on va évidemment parler des masculinités, du virilisme, de la domination masculine, mais on va aussi parler de beaucoup de choses. On va parler du soin, du commun, comme outil de résistance contre les inégalités et les injustices dans le monde, mais on va aussi parler du monde dont nous voudrions habiter au Maroc et dans le monde. Et justement, pour parler de ce sujet, nous recevons avec nous l'écrivaine franco-marocaine Yasmine Chami. Yasmine, merci d'avoir accepté l'invitation de Machir Joula.
Ben, merci d'avoir pensé à moi.
Alors, Yasmine, tu es écrivaine, anthropologue, tu es un électron libre, tu as fait de la production pour la télé, tu as publié ton premier roman en 99, Cérémonie. Et plus tard, tu as publié Mourir est un enchantement, qui a reçu le prix de l'Institut du monde arabe. Et tu as aussi publié Dans sa chair, justement, qui aborde la question des masculinités. On va en parler. Mais pour commencer, j'aimerais te poser une toute première question que j'ai l'habitude de poser à tous les invités de Machir Joula. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour toi?
C'est d'abord être un humain, déjà. Donc c'est faire partie de l'humanité, ce qui est déjà en soi, je dirais pas un défi, mais en tout cas, comment on définit l'humanité. Et puis être un homme, c'est aussi être un individu sexué, mais aussi un individu genré. Et bien évidemment, il y a une différence entre le sexe biologique, le genre, hein, on le sait bien aujourd'hui, et c'est toute cette manière, en fait, de s'appuyer sur le biologique, en fait, hein, pour définir le sociopolitique et l'intime, qui est intéressante, justement, dans la catégorie homme, avec toutes les attentes sociales et toutes les attentes aussi politiquement constituées et construites et culturellement élaborées, qui viennent, en fait, imposer, en fait, hein, des modes d'être à un type d'être humain.
Yasmine, on s'est rencontrés la première fois il y a quelques mois au Symposium international sur la démocratie au féminin organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Et tu avais donné un cours magistral intitulé Le patriarcat dans le corps. Et d'ailleurs que j'invite les auditeurs et auditrices de Machir Joula d'aller regarder sur Internet, parce que je trouve vraiment super intéressant. Et justement, par rapport à ça, j'aimerais te poser la question sur le patriarcat. Qu'est-ce que le patriarcat fait de nos corps?
Le patriarcat, c'est une construction sociale et politique qui, en fait, impose comme modèle de société la domination masculine. La domination masculine, c'est pas forcément la domination des hommes, mais c'est aussi la domination des hommes dans la société. Ce qui veut dire qu'au fond, à partir de l'organisation des lignages, c'est-à-dire au fond la manière dont un individu s'inscrit dans le corps social, je dis c'est un corps social parce qu'il y a une dimension organique en fait dans l'organisation des sociétés aussi. À la naissance, un enfant est nommé et il est nommé en lignée paternelle. Et donc ça produit des effets, c'est-à-dire que les femmes, parce qu'elles ont le pouvoir d'engendrer, qui est un pouvoir biologique très très important, elles portent des enfants qui vont symboliquement s'inscrire dans la lignée paternelle. Et le patriarcat, en général, il construit des catégories sociales sur les bases, en fait, sur le fondement de cette réalité biologique. En fait, les femmes sont assignées à la reproduction, et donc à la reproduction biologique, et les hommes, en fait, hein, sont destinés à la construction de l'ordre symbolique, c'est-à-dire au fond de l'ordre social. Et de cette dichotomie, de ce partage quelque part, pas des tâches, mais des fonctions, va naître en fait une répartition des pouvoirs dans la société. Et cette répartition des pouvoirs se fait au détriment des femmes, c'est-à-dire qu'au fond, aux tâches de procréation, c'est-à-dire de mise au monde du vivant quand même, hein, vont être liées le domus, c'est-à-dire la prise en charge de tout ce qui est l'espace domestique, l'espace intime, familial, l'éducation des enfants, les soins aux vieillards, les soins nourriciers, etc. Tandis que de l'autre côté, les hommes sont chargés de l'extériorité, c'est-à-dire en fait de la guerre, c'est-à-dire protéger la famille, protéger les cultures, protéger les troupeaux, puis plus tard protéger la cité, et puis finalement aussi pourvoir aux besoins de ce domus, et donc au fond s'inscrire dans des logiques économiques, politiques, etc. Et donc tout l'ordre symbolique, en fait, quasiment, est extérieur, en fait, est confié aux hommes et de quelque part accaparé par le masculin. Pendant que les femmes sont en fait dédiées à la gestion de l'intime, c'est-à-dire de ce qui ne se voit pas, de ce qui ne se dit pas, de ce qui ne se sait pas, hein, mais qui pourtant soutient la possibilité d'une vie sociale et de la permanence de la vie dans la société.
Okay. Justement, on va parler du féminin et du soin et du commun et on va aborder toutes ces questions. Mais d'abord, j'aimerais te parler de ton roman Dans sa chair. Alors que c'est un roman que j'ai lu grâce à la recommandation de Stéphanie de la Librairie des Insolites et je la remercie pour ça. Et quand je l'ai lu, c'est un livre qui m'a beaucoup interpellé parce qu'il parle des hommes irresponsables. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, des hommes qui fuient, qui abandonnent. Il y a cette question, enfin, c'est comme ça que j'ai vu quand même le personnage de Smaïl. Et j'ai une amie féministe qui a eu un peu d'empathie pour ce personnage. Alors, moi, je ne te cache pas, je n'ai pas eu d'empathie pour le personnage. Mais il y a une question quand même que je me suis posée en découvrant le personnage de Smaïl. Est-ce qu'en tant qu'homme, on fabrique les injonctions genrées sur le fait d'être un homme, ou ce sont des injonctions imposées par le système patriarcal et la société?
Dans le cas de ce personnage, en tout cas, la construction du personnage, elle reposait sur, effectivement, à la fois quelque chose qui dévoilait la lâcheté masculine, une forme de lâcheté masculine, mais j'aime pas généraliser, mais en même temps, la construction de cette fuite. C'est-à-dire, Smaïl, c'est un homme, c'est pas par hasard, hein, il est marocain, il est né au Maroc dans les années 50, son père, dans les années, oui, je dirais 60 peut-être. Son père est un intellectuel de gauche, de la classe moyenne marocaine arbatée, et il se trouve pris dans la violence d'un système politique qui, à ce moment-là, décide l'élimination de ce type de pensée, hein, de la pensée de gauche vécue comme menaçante sur le plan politique. Et donc, son père, il disparaît. Comme beaucoup de gens, dans les années 70, hein, la violence du pouvoir politique au Maroc a été très importante. Il y a des gens qui ont disparu parce qu'ils portaient une parole différente, en fait, de justice sociale, d'égalité, de revendication de tous ordres. Et donc, cet homme, Smaïl, il est profondément construit sur le manque du père. Hein, et il est profondément construit sur la vulnérabilité de sa mère, à la fois la force et la vulnérabilité de sa mère. Il a de sa mère une image totalement idéalisée et en même temps il est parfaitement conscient de la violence de la société. Il y a une scène où en fait sa mère va chercher de l'aide auprès de sa sœur, qui est mariée à un oligarque, en fait à quelqu'un qui est dans le système, qui a du pouvoir. Mais le fait que le père de Smaïl soit décédé fait que cette femme devient inaudible, elle est transparente et elle n'a même pas l'aide de sa sœur. Elle est dangereuse en fait parce que elle a été liée à cet homme-là. Il y a peu de solidarité. Il y a la solidarité de ceux qui sont revenus des bagnes, en fait, ils sont revenus des geôles du pouvoir, et elle est faible, parce que ce sont des gens qui ont été eux-mêmes dévitalisés par le système, qui sont fatigués, qui ont souffert dans leur corps, dans leur chair, dans leurs convictions. Et on voit bien à quel point cette famille est isolée. Et donc, très jeune, Smaïl, il n'y a pas d'injonction de sa mère, mais de fait, il a deux sœurs. Donc, c'est trois femmes. Et dans un pays patriarcal, il est l'homme de la maison. Hein, et il porte en fait en lui l'injonction du père qui est tu deviendras un grand médecin, etc. Donc, et que la mère te porte avec elle, tu feras plaisir à ton père par-delà sa mort, parce qu'on apprend la mort du père. Et en fait, Smaïl est un homme qui vit sur la défaite des valeurs de son père, de fait, hein, qui vit la violence politique, qui l'introjecte et qui en fait se conforme à l'idéal patriarcal parce qu'il faut qu'il soit un homme fort pour protéger sa mère et ses sœurs. Et c'est un garçon brillant. Donc il devient neurochirurgien et il devient l'un des plus grands neurochirurgiens du pays. Et il épouse une femme extraordinaire qui est artiste, qui vient d'un milieu extrêmement privilégié, qui lui ouvre les portes en fait de la sensibilité. Et le paradoxe, c'est que cette femme qui lui ouvre les portes de la sensibilité, Médée, je choisis de l'appeler Médée dans le roman, il va la laisser, il va l'abandonner pour aller vivre une passion auprès d'une jeune femme qui est une assistante, qui est son assistante, qui est chirurgienne, qui vient de la classe moyenne, comme lui, en fait, hein, à laquelle il s'identifie, qui est beaucoup plus jeune que lui, elle a 25 ans de moins que lui. Et il vit avec elle une passion désespérée, en fait. Et on voit bien dans le roman qu'il est à la recherche du jeune homme qu'il a été. Elle incarne quelque chose de ce qu'il a été, mais avec une liberté qu'il n'a pas eue, en fait, d'être lui-même et de se vivre et de vivre son corps et ses désirs et sa chair et sa volonté, parce qu'il a été totalement, en fait, prisonnier d'un système de représentation qui a été introjecté par tous les hommes de cette génération avec beaucoup de violence.
Oui, d'ailleurs, c'est des vécus, des expériences qui sont quand même assez fréquentes
Bien sûr.
au Maroc et dans le monde.
Oui, donc c'est un homme qui effectivement fuit, mais qui fuit d'une manière, j'ai envie de dire humaine, c'est-à-dire on comprend. Et c'est le but du roman, justement. C'est l'envers et l'endroit. Et je crois que quand on est écrivain, on est du côté de l'envers, en fait. On est du côté de la fabrique. Il y a un essai que j'aime beaucoup de Huberman, La fabrique des émotions disjointes, en fait. Hein. Mmh. Et c'est très intéressant à lire parce que c'est comment ça se fabrique, ces émotions disjointes. Qu'est-ce qui fait que je suis à la fois ici et ailleurs? Par-delà l'assignation des rôles, en fait.
Ouais, et comprendre la vulnérabilité, ça se trouve que...
Ben, il est vulnérable profondément, parce que face à cette femme jeune, il s'est mis en position de vulnérabilité. Il a été vulnérable enfant, et il se remet en position de vulnérabilité, devenu un homme à la frontière de la vieillesse. Il a la soixantaine, donc en fait, il va basculer de l'autre côté. Et il se met en vulnérabilité avec cette jeune femme qui ne peut que l'abandonner à son tour. Il ne peut pas incarner l'avenir pour elle, c'est impossible.
Et Yasmine, ça se trouve que toi, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur la question de la vulnérabilité. Est-ce que le rejet de la vulnérabilité produit de la domination masculine et en tout cas participe à la fabrication d'une société dominante? Quel est le rôle de le rejet de la vulnérabilité?
Je crois que le rejet de la vulnérabilité produit des stéréotypes qui exaltent en fait le pouvoir, la force, l'invulnérabilité. Moi, je pense beaucoup, là, quand on se parle comme ça, je pense à cette image de Trump échappant à un attentat avec, en fait, il se baisse, puis il est blessé, mais en fait, il est là, victorieux. Hein, il est l'incarnation du masculin toxique, en fait. Hein. Donc, il y a une toxicité de la force, de la puissance, du refus de la vulnérabilité, parce que au fond, le mot vulnérable, il a une racine vulnère, qui signifie en latin la blessure, et le suffixe able, ça veut dire une disposition à la blessure. Ça ne veut pas dire qu'on est blessé, ça veut dire qu'on sait qu'on peut être blessé. Hein. Et donc, et la blessure, en même temps, c'est l'effraction. Et l'effraction, c'est la disjonction. Quand on est blessé, il y a le creux de la blessure et il y a les deux bords de la blessure. Et en fait, pour rattraper les deux bords, pour la cicatrisation, pour qu'on puisse cicatriser, il faut que les deux bords se rejoignent. Et donc, il faut une conciliation. Il faut trouver une manière de traverser le gouffre creusé par la plaie. Et c'est dans cette intelligence de la plaie qu'on devient humain. Et s'il n'y a pas cette intelligence de la plaie, on ne peut pas devenir humain, on est monstrueux. Monstrueux au sens de monstrare, ce qui se donne à voir comme totalement hors humanité. Donc je crois, oui, que le refus de la vulnérabilité produit des monstres au sens où ça produit quelque chose qui... L'héroïsme, en fait, hein, qui est de l'ordre de l'héroïsme grec. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup le travail que Jacqueline de Romilly a fait sur l'Odyssée, sur l'Iliade et l'Odyssée, parce qu'elle montre qu'au fond, les chants les plus beaux de l'Iliade, ce ne sont pas ceux qui sont consacrés à Achille, le héros, ce sont ceux qui sont consacrés à Hector. En fait, celui qui a été défait et traîné, le corps traîné par le char d'Achille, quand Priam, le père d'Hector, vient supplier Achille de lui rendre la dépouille mortelle de son fils et qu'Achille rend cette dépouille, il devient un humain.
Et Yasmine, j'aimerais aussi te poser une question sur l'accessibilité au récit des femmes. Que peut la littérature, l'art, l'accessibilité en général au récit des femmes pour changer les imaginaires des hommes, ou en tout cas leur donner accès à une autre vision du monde qui n'est pas...
Bon, moi, en fait, la séparation homme-femme, elle est actée dans les sociétés, hein, mais elle ne me convainc pas tout à fait. Il y a des hommes qui sont extraordinairement empathiques et sensibles, et il y a des femmes qui sont extrêmement dures. Mais bon, disons qu'on accepte les catégories telles qu'elles sont construites. Je crois que le territoire du féminin, j'aime mieux dire le féminin que les femmes, en fait, c'est l'envers de la société. Aujourd'hui, c'est l'envers des sociétés, c'est-à-dire c'est ce qui permet que les sociétés durent, mais c'est ce qui n'est jamais visible, c'est la trame invisible de la vie. Et je crois que nous aurions intérêt à retourner le tissu hein, pour aller voir comment c'est fait. Ce que ça coûte de nous maintenir vivants, c'est ce que les femmes font, mais qui n'est jamais comptabilisé, qui n'est jamais validé, qui n'est jamais valorisé, en fait. Hein. Et c'est toute cette invisibilisation des contributions des femmes qui produisent des sociétés où la domination, la puissance, le contrôle, la sanction, la guerre, le sang, en fait, hein, sont des valeurs maîtresses. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en plus pris dans un système d'économie néolibérale financiarisé qui a utilisé, en fait, qui a avalé cette structure patriarcale et qui, dans la production de valeurs économiques, en fait, redigère et revalide, en fait, le patriarcat avec tout son système de domination. Donc, c'est un système de domination économique, politique, sociale. Et en fait, l'envers du monde, c'est tout le travail de soins que font les femmes. Et ce travail de soin, souvent, il est à l'opposé du travail de production extractiviste que valident, en fait, ces sociétés, pour reprendre le mot de le brutalisme d'Achille Mbembe. Hein. Ouais. Donc, en fait, cet extractivisme forcené, mais qui n'est pas extraction uniquement des minerais, des terres, des... Non, mais c'est aussi l'extraction de l'énergie humaine, en fait, hein, mise à disposition de chaînes de production qui vont aller créer de la richesse pour certains et qui vont aller appauvrir, en appauvrir d'autres. Et je crois que nous sommes dans ce monde-là, et ce monde-là, son envers, l'autre possibilité politique du monde, c'est effectivement l'envers du monde, c'est-à-dire c'est la pratique réelle, quotidienne, en fait, du soin qui permet de réparer et de protéger la vie malgré tout, parce que nous sommes quand même confrontés à un monde où la prédation devient la règle.
Bon, je trouve ça super intéressant parce que finalement, repenser le féminin est une façon aussi de réinventer le monde, non seulement juste pour déconstruire les normes de genre, mais pour aussi penser, repenser
les économies, et les économies politiques. C'est-à-dire qu'au fond, moi je pense que, parce que le maître mot aujourd'hui, c'est la notion de valeur. En fait, qu'est-ce qui est valorisé? Comment on produit de la valeur? Et en réalité, si on pouvait indexer la notion de valeur, non plus sur le profit, mais sur le care, sur le soin, nous pourrions inventer un autre monde. Et je pense que c'est possible, c'est une utopie positive.
Okay. Et que peut le soin face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Est-ce qu'on peut, je veux dire, au quotidien, comment peut-on mettre en action le soin, le commun, enfin, j'ai envie de dire, ce projet de l'ordre, d'ordre politique pour faire face au patriarcat au quotidien, à tout ce qu'on voit.
À la prédation, télé, à la destruction. Ouais. Ben, en réalité, on voit bien que nous sommes arrivés, j'ai envie de dire, au bout d'un système qui au fond, un système masculiniste. On le voit bien, aujourd'hui, les dirigeants du monde sont profondément masculinistes. Ils sont virilistes, masculinistes, et ils produisent des guerres épouvantables. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est le fruit d'un désir expansionniste, validé par la plus grande puissance mondiale, financé avec des armes de destruction massive, guidées par l'intelligence artificielle. On est au cœur, en fait, hein, d'un système d'organisation et de production de la violence, qui n'est même plus une violence légitime, puisque cette violence est décorrélée des instances internationales de régulation, en fait, de toute la législation internationale. Et aujourd'hui, les lois sont foulées aux pieds par les puissants du monde, et ils le sont avec une totale impunité. Donc, en fait, on voit bien qu'on est arrivé au bout de quelque chose. C'est-à-dire que ce système produit de la mort, il génère des génocides. Il y a eu quand même ce génocide palestinien aujourd'hui, là, à Gaza, il est sous nos yeux, documenté, avéré, et nous sommes contraints de regarder cela. Et donc, la manière dont s'organise la résistance des peuples, en fait, parce que les peuples, là, divorcent des pouvoirs. On le voit bien partout dans le monde. On a, d'un côté, les calculs pragmatiques, dits pragmatiques, politiques, qui organisent, au fond, les solidarités dans le massacre et la prédation. Et de l'autre côté, on a quand même des peuples qui s'élèvent et des voix de plus en plus nombreuses, de plus en plus puissantes et en même temps pas entendues, qui réclament un autre monde, qui réclament un monde où on peut vivre et non pas un monde pour mourir. Et je crois que cette mise en place d'une idéologie politique, on a un effondrement idéologique en fait, et il va falloir remplacer, à défaut d'idéologie, en tout cas un idéal. Et je crois que l'idéal, c'est prendre soin. C'est prendre soin les uns des autres. C'est restaurer une fraternité humaine, une frater-sororité humaine, qui permettrait de dépasser les rapports de genre, de dépasser les rapports de domination, et en réalité qui permettrait de recréer du commun autour de la protection de tous les vivants. Parce qu'aujourd'hui, non seulement les humains se détruisent entre eux, mais en plus, les humains détruisent l'écosystème qui soutient la vie. Et toutes les vies, pas seulement celles des humains, nous avons des destructions d'espèces végétales, animales, et bientôt la vie sera impossible sur cette planète. Si on en croit les rapports du GIEC et si on suit un petit peu l'actualité écologique, il y a là quelque chose qui quand même, et puis on le voit bien, il y a des tas de gens qui ne croient pas au dérèglement climatique, et comme par hasard, ce sont les patriarcaux, ce sont les masculinistes, ce sont les virilistes qui n'y croient pas. Parce qu'il y a toujours cette espèce d'affrontement, hein, de volonté de domination qui va jusqu'à la domination, en fait, des mondes minéraux, végétaux, et finalement de la domination de la planète. Et les gens imaginent, comme Musk, hein, s'échapper de la planète Terre parce qu'elle sera inhabitable pour aller habiter ailleurs. Il n'y a pas de limite, en fait, au sentiment de toute puissance. Et la seule limite que nous pouvons opposer, c'est la conscience commune de notre vulnérabilité. D'où l'importance de penser cette vulnérabilité commune et de prendre conscience du fait qu'il n'y a pas de possibilité pour nous de sortir de notre condition d'humain. Il y a le fantasme d'être hybride, hein, mi-humain, mi-IA. Il y a toute cette espèce d'imaginaire, en fait, hein, du numérique qui vient quelque part contrer le discours de la vulnérabilité. Mais la vérité, c'est que nous sommes vulnérables. Nous naissons nus, nous repartons nus. Et entre-temps, tout peut nous arriver. Nos corps sont friables, ils sont fragiles et c'est facile de les blesser, de les ouvrir, on le voit bien. Les enfants palestiniens, un drone leur tombe dessus, une bombe leur tombe dessus, c'est fini, il n'y a plus personne. Les tentes brûlent, les corps brûlent, ils sont défaits, ils sont amputés, ils sont massacrés. Et ça peut nous arriver à tous. Et donc, en fait, la seule solution, c'est de prendre conscience et d'intérioriser que le propre de la condition humaine et le propre de la condition d'être vivant, c'est la vie est vulnérable. La vie n'est que vulnérabilité. Ouais. Et pour protéger la vie, la solution, ce n'est pas d'organiser la force. La solution, c'est de réparer ce qui est blessé et de veiller à ne pas blesser.
Okay.
Et je pense que cette activité de veille est fraternelle et maternelle, j'ai envie de dire. Il faut materner le monde. Et je crois que c'est là où les femmes ont un rôle à jouer sur le plan politique parce qu'elles portent des valeurs, les valeurs de soins, les valeurs maternelles, les valeurs de tact, les valeurs de sensibilité, tout ce qui a été invalidé par la mise en place d'un système fondé sur la rationalité, sur l'efficacité, sur la productivité, sur la performance héroïque, en fait. C'est cet héroïsme qu'il faut défaire. Il faut cesser d'aimer les héros pour aimer les humains, pour aimer les vivants. Je crois que c'est ça la solution. Mais bon, c'est long, hein.
Non, mais c'est très beau, c'est Zouine, ce projet, je le trouve super intéressant et ça donne beaucoup d'espoir surtout. Et du coup, j'aimerais, pour faire face justement au monde tel qu'il est aujourd'hui, tu m'as parlé du soin, du commun aussi, et je t'ai déjà entendu parler de l'horizontalité face à la verticalité du monde, puis aller voir de l'autre côté, considérer les marges. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette vision du monde ?
C'est-à-dire qu'en fait, la grande question, c'est au fond, qu'est-ce qu'on fait avec la vie ? Qu'est-ce qu'on fait avec la vie ? C'est-à-dire, les femmes, elles mettent au monde les enfants, hein, et les femelles, en général, mettent au monde les petits. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a une vision hiérarchique des êtres. Et qui consiste au fond à décréter qu'il vaut mieux être important qu'être malade, il vaut mieux être bipède que quadrupède, il vaut mieux être... Hein, et qui a produit en fait des hiérarchies qui aujourd'hui conditionnent la représentation que nous avons en fait hein, du vivant et de ce que c'est qu'être vivant sur cette terre. Et je crois qu'il va falloir apprendre à déconstruire en fait ces schémas de domination empilés. Un peu comme des matrioshkas, en fait, hein, qui sont les unes dans les autres. J'ai envie de dire des patrioshkas. Et justement, il va falloir apprendre à horizontaliser les rapports. C'est-à-dire, au fond, je crois beaucoup à l'horizontalité. Je ne crois pas à la verticalité. Je crois que nous devons apprendre à penser l'autre comme un autre de soi. Non pas un autre que soi, mais un autre de soi. Et c'est ça l'envers. Je suis l'endroit, tu es l'envers. Je suis l'envers, tu es l'endroit. Donc, au fond, nous sommes un. Et c'est cette unité qui est horizontale. Et au fond, c'est une déconstruction de la pensée de l'altérité. Je crois qu'il y a quelque chose à penser, il y a quelque chose de ce point de vue-là. Parce qu'en réalité, nous avons les outils au Maroc et nous avons les outils en Afrique, en règle générale. Nos sociétés sont des sociétés qui étaient plus ou moins horizontalisées. Il y avait effectivement, par exemple, au Maroc le Sultan, mais après, dans les quartiers, les gens vivaient ensemble et les quartiers étaient comme des matrices. On ne savait pas trop bien, le voisin, ce qui comptait, c'est que c'était le voisin, mais on ne savait pas ce qu'il avait. Il y avait des voisins qui étaient riches et des voisins qui étaient pauvres, mais il y avait une communauté. Et la notion de Jamera, elle est très puissante. Et cette notion de communauté, elle peut nous aider, parce qu'après, il faut partir de là où on est, il faut endogénéiser, en fait, l'horizontalité et les communs. Et je crois que nous avons les outils au Maroc pour penser le commun, parce que nous l'avons déjà fait, parce que nous savons ce que c'est être ensemble.
Et qui est là aussi.
Oui, et il est encore présent, même s'il est très menacé en fait, par l'économie néolibérale et ce qu'elle suppose de verticalisation des rapports, nous savons ce que c'est que partager. Nous savons ce que c'est qu'être solidaire, nous savons ce que c'est que le voisin, jar, nous savons ce que c'est que le jama'a, nous savons ce que c'est que jama'a, nous savons ce que c'est que... Et le jama'a, ce n'est pas religieux. Jama'a, c'est le sacré. Et le sacré, c'est être ensemble. La sacralité, c'est l'être ensemble, c'est savoir être ensemble, en fait. Hein. Et il faut le protéger. Et il faut, il faut réussir à retourner vers ce que nous savons être pour inventer notre propre modernité, sans renoncer au commun. Parce que nous avons quelque chose que nous pouvons apporter au reste du monde qui est de l'ordre du commun, que nous savons vivre. Nous savons le vivre au Maroc, on le sait vivre au Sénégal, on sait vivre en Algérie, on sait vivre au Bénin, on sait vivre en Côte d'Ivoire, on sait vivre au Tchad, au Nigeria. L'Afrique sait ce que c'est qu'être ensemble. Nous savons encore, même s'il y a des génocides en Afrique, même s'il y a des guerres, même s'il y a... Dans la vie quotidienne, les gens savent qu'ils doivent compter les uns sur les autres. Et que compter sur l'autre, c'est savoir que l'autre est avec soi. On sait être avec, on sait être ensemble. C'est quelque chose qui a été largement perdu en Occident.
Ouais.
Et c'est une puissance des pays du Sud de proposer un modèle. Nous sommes capables aujourd'hui, en faisant le travail qu'il faut sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan politique, de porter un projet, de vivre ensemble, d'être vraiment ensemble. Pas le vivre ensemble politique désubstantialisé, hein, proposé ici ou ailleurs, mais véritablement vivre avec.
Ouais.
Vivre avec l'autre. Mais l'autre, c'est l'autre de moi. C'est pas l'autre que moi.
Ouais. Dans la communauté.
Oui.
Ouais.
Et je crois que ça, c'est le projet de réparation du monde. C'est un très beau projet politique de réparation du monde.
Oui, c'est, finalement, c'est un projet féministe, mais avec un grand S. C'est vraiment une vision du monde. Et justement, tu m'as beaucoup parlé de... tu as parlé tout à l'heure de la cause palestinienne. Et en t'écoutant, je me dis que finalement, peut-être le combat du peuple palestinien est un combat féministe qui fait face justement à ce monde néolibéral.
Bien sûr, c'est un combat qui est féministe au sens puissant du terme. C'est-à-dire, c'est un combat... pour que la vie, et paradoxalement, ça passe par la mise à mort. Le paradoxe, c'est que se battre pour la terre, pour les oliviers, pour l'eau, pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes de cette terre, pour leur légitimité, pour leur droit à y vivre, pour l'égalité, pour la vie avec les autres, ça passe par la mise à mort d'un peuple. C'est cet effet saisissant, c'est cette image saisissante, c'est cette réalité insupportable que le génocide à Gaza nous oblige à confronter. C'est la violence du monde néolibéral, c'est-à-dire c'est la violence de la raison économique, de l'homo economicus blanc. Quand je dis blanc, c'est pas une couleur, c'est un état du monde. C'est cette domination-là qui impose ces schémas, qui impose ces directives, qui impose son organisation, qui déracine les arbres, qui tue les enfants, qui abîme les femmes, qui ampute les hommes. C'est de ça qu'on parle. Et c'est ça qu'il ne faut pas accepter. Et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers un monde commun. Et c'est pour ça qu'il faut inventer un monde qui sort d'une matrice. Et pas d'un patrimoine. Il faut restaurer un matrimoine. Il faut aller regarder comment les femmes protègent la vie, accompagnent les mourants, accompagnent les nouveaux-nés, donnent le sein, nourrissent, pansent les plaies, organisent l'éducation. C'est ça la vie. C'est ça, en fait, la politique. La politique, elle doit être entièrement traversée, innervée, resubstantialisée par les valeurs du matrimoine qui permettent de réparer, justement, ce que la conjonction de l'héroïsme guerrier et du modèle économique néolibéral ont créé comme dévastation, en fait, autour de nous, partout, et en nous. Parce que c'est intime aussi. Parce que cette violence, elle produit aussi des effets de sidération, des effets d'effarement, des effets de peur, en fait, qui nous coupent de notre propre vitalité, de notre propre énergie réparatrice. Et nous devenons tous malades. Nous sommes tous malades de ce monde-là, aujourd'hui.
Ouais.
Et cette maladie, il faut la soigner, en nous et hors de nous. Moi, je le crois profondément.
Ouais, il y a quelque chose de... quand on vit dans la violence...
C'est pervers.
Ouais.
Pervertéré, c'est ce qui, c'est ce qui vous traverse. Et qui vous, mais de manière insidieuse.
Ouais.
Nous sommes insidieusement agressés, en fait, par ce monde-là. Et nous sommes tous, je crois que n'importe quel être humain avec lequel vous parlez, que si vous lui parlez de son humanité, vous lui parlez de ses parents, de sa famille, des gens qu'il aime, personne ne veut ça. Personne ne veut ça.
Ouais.
Je crois pas que... Et même ceux qui croient le vouloir ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que si ça leur arrivait, ils ne le voudraient pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas oublier ça. C'est que l'autre, même quand il est complètement traversé et enfermé, encagé en fait, hein, dans cette violence, et qu'il n'imagine plus que la violence, si vous le touchez, le cœur de son cœur, il y a toujours le cœur de votre cœur. C'est votre enfant, c'est votre mère. C'est... Si vous... Tout de suite, vous le retournez. Et il retourne vers son envers, c'est-à-dire comment réparer.
Yasmine, je voudrais te poser la question sur Casablanca. Alors, moi inclus, hein, je fais partie de ces gens qui trouvent Casablanca une ville assez masculine, assez viriliste. Mais quand je t'ai écouté parler de Casablanca, bah, du coup, ça a changé un petit peu mon regard. Je pense que tu arrives à voir quelque chose de... Autre chose, en tout cas. Tu vois le commun, toutes ces choses dont tu parles. Oui. Tu les vois à Casablanca.
Ah oui.
Et...
Moi, c'est une ville que j'adore. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que Maroc, ce n'est pas une ville qui est très aimée par les autres habitants, en tout cas ceux des autres villes. Mais moi, j'aime Casablanca parce que, pour moi, c'est une ville fraternelle. Mmh. Et c'est une ville résistante. Les Casablancais, ils ont appris... En fait, d'abord, ils viennent de partout. Donc, c'est des gens qui se sont déracinés, qui sont partis d'ailleurs pour arriver à Casablanca, pour faire vivre leur famille, souvent. Hein, souvent, les familles restent ailleurs et les Casablancais, eh bien, ils envoient de l'argent ailleurs, ils envoient le fruit de leur travail pour permettre au reste du Maroc, de, ou même ailleurs d'ailleurs, hein, de vivre. Et puis, parce qu'il y a beaucoup aussi de migrants hors Maroc à Casablanca, et ces migrants envoient de l'argent dans leur pays aussi pour permettre à ces familles qui sont restées au pays de continuer à y vivre. Et donc, au fond, c'est une ville nourricière. Elle est prédatrice et nourricière en même temps. Mmh. Et ce qui est assez extraordinaire à Casablanca, c'est tous les réseaux de solidarité qui s'organisent pour permettre justement à ces personnes déracinées de vivre, de survivre dans la ville. Et ça crée, je trouve, un esprit profondément fraternel qui chaque fois me frappe. Mmh. Je me balade partout, moi, à Casablanca. Mmh. Et dans des quartiers les plus périphériques, il y a chez les gens un accueil que je ne trouve nulle part ailleurs.
Ouais, du coup, je vais me permettre de taquiner un petit peu les gens de Rabat, mais moi non plus, je ne m'identifie pas à Rabat. Hein. Je me considère plus comme Casablancais.
Ben voilà. Mais c'est aussi parce que Casablanca, c'est une ville qui s'invente. Elle s'invente tout le temps, et les Casablancais l'inventent au fur et à mesure. Mm-hmm. C'est sa puissance aussi, c'est sa force. Et c'est aussi une ville très blessée, parce que ça a été la ville quand même des résistances, ça a été la ville des manifestations, ça a été la ville des oppositions. Mm-hmm. C'est une ville aussi ouvrière. Hein, c'est un foyer ouvrier dans les années 50, 60. Et puis, c'est la ville des bidonvilles résistant à la colonisation, avec le Caribbean Central, avec le Haïm Mohammadi. Avec, et en même temps, elle a été punie par le pouvoir politique dans les années 80, après les émeutes de la faim, les émeutes du pain. Donc, et elle a été abandonnée, elle a été délaissée. Donc, il y a une blessure à Casablanca. Mmh. C'est une ville blessée. Mais dans la blessure, il y a une force qui surgit, c'est ce que je disais. Mmh. Il y a une puissance, il y a une force de réparation, il y a une force de résilience, il y a une force de réinvention de soi. Pour moi, c'est la ville de la réinvention de soi. Mmh. Pourvu qu'on la laisse vivre aussi. Mmh. Je pense beaucoup aux habitants expulsés des quartiers en ce moment.
Ouais.
À nouveau.
Et à Rabat aussi.
Oui, cette opposition entre les projets externes, hein, d'apparat, la Coupe du Monde, le Maroc qui se gentrifie, en fait. Hein. Et puis, de l'autre côté, toutes ces vulnérabilités, en fait. Hein, ouais. tous ces êtres humains vulnérables, dépossédés, délogés, et qui vont devoir à nouveau réinventer, mais en n'ayant pas les moyens, en étant expulsés à la périphérie des villes. Tout ça pour permettre, en fait, à ces centres-villes de devenir d'avoir en tout cas l'apparence de la prospérité. On va les réserver aux prospères, en fait, hein, et puis les autres vont les quitter. Et donc, les villes vont perdre aussi leur âme, leur identité. Leur... C'est quelque chose qui fait réfléchir, parce qu'on a déjà vu ça en Occident. On a bien vu ce que ça a donné. Les centres-villes asséchés, comme des décors de carton-pâte, en fait, réservés aux ultra-riches. Et puis, au fond, les périphéries laborieuses, vulnérables, vivantes... Je ne suis pas sûre que ce soit un modèle à reproduire, en tout cas en ce qui me concerne. Je suis un peu sceptique, je t'avoue.
Yasmine, il y a aussi une question que je voulais te poser par rapport à la capacité de... Justement, on a parlé de ce projet commun pour réinventer le monde, pour penser autre chose, pour changer les imaginaires et les narrations. Comment on pourrait le mettre en place ? Comment on pourrait tisser les liens entre les communautés, entre les individus, pour créer autre chose? Par quel outil passer?
Moi, j'ai la chance de travailler avec le professeur Achille Mbembe, en fait, dans le cadre de la Fondation pour la démocratie endogène en Afrique. Et honnêtement, c'est un lieu formidable. Il a inventé un lieu assez extraordinaire, en fait, hein, où se retrouvent à la fois des activistes, des intellectuels, les professeurs d'université, avec une réflexion extrêmement puissante, en fait. Hein,
c'est là-bas on s'est connus, c'est
oui,
comme ça qu'on arrive.
Adossé sur eux, oui, exactement. Il a, je crois que la Fondation est en train de poser un petit peu ses, de s'enraciner un petit peu à Dakar. Ça tombe bien parce qu'il y a aussi les ateliers de la pensée de Dakar, en fait. Donc, il y a tout un environnement, un écosystème qui se crée. Et je crois que le Maroc devrait aussi... travailler à accueillir, en fait, hein, cette pensée-là. Je crois qu'il y a quelque chose qui se tisse là, qui a à voir avec l'endogénéisation des pratiques démocratiques, c'est-à-dire au fond en Afrique, au fond sortir de la post-colonie, sortir de cette...
Décentraliser un peu.
De cette vision néocoloniale où la démocratie était imposée par les pays occidentaux, et aller chercher dans notre histoire et dans nos traditions de vie en commun, dans nos capacités de vie en commun, des valeurs démocratiques qui sont très, très implantées hein, au Maroc. Il y a des régions où vraiment la démocratie existe, la démocratie locale, la gestion de l'eau, la gestion des terres, la transmission, le combat des femmes sous la liette. On n'a pas attendu l'Occident pour exister. Et je crois que ça va nous aider en fait à construire en fait hein, un modèle démocratique qui soit un modèle africain et on peut imaginer l'Afrique qui va être quand même le berceau de la jeunesse mondiale en 2050, un jeune sur trois est africain. Donc, il va bien falloir qu'on invente qu'il y ait une proposition politique pour cette jeunesse, qu'il y ait une proposition, un projet politique et un projet de vie pour cette jeunesse-là. Et je pense que l'Afrique a la possibilité de devenir, en fait, hein, un réservoir de valeurs, comme Ubuntu, en fait. Hein. Dire, vous savez, souvent, on a attribué au très grand penseur juif Lévinas la pensée de ton visage et mon visage, en fait, hein, après l'épouvante de l'Holocauste en Europe, de l'extermination des Juifs d'Europe, hein, il a proposé en fait cette vision philosophique, ce concept philosophique de la responsabilité de l'autre. Mais elle existait depuis très longtemps en Afrique, elle avait pour nom Ubuntu. Donc, c'est parce que nous avons une profonde méconnaissance de nos propres cosmogonies, de nos propres philosophies, de nos propres pensées, hein, que nous sommes arrimés à la pensée occidentale. Et je crois qu'il ne faut pas se désarrimer de la pensée occidentale. Elle est puissante, elle est riche, elle a des propositions qui nous ont aussi structurées aujourd'hui. Hein. Et il faut simplement se souvenir de qui on est et construire à partir de ce terreau commun, en fait, une pensée nouvelle, politique, qui nous permettent en fait de réinventer la démocratie. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre de ces ateliers avec le professeur Mbembe. Je crois que ces initiatives-là doivent se multiplier à travers le continent africain. Il faut les porter dans les universités, dans les forums, dans les fondations, dans les sociétés civiles. Il faut apprendre à dialoguer, à discuter et faire émerger en fait des valeurs qui nous tiennent à cœur, hein, qui permettent à chacun, à tous, en fait, à tous les groupes d'exister. Nous devons cesser d'imaginer des sociétés monolithiques où il n'y ait qu'une manière de vivre, une manière de penser, une manière d'exister, une manière de produire. Non. La richesse des sociétés, c'est leur diversité, justement. Et leur diversité, la diversité n'est pas synonyme de... On a eu ça avec nos indépendances, on les a construites sur l'idée d'une unité nationale. Et en fait, oui, il y a une unité nationale, bien sûr, il y a une identité commune, mais il y a des identités dans l'identité.
La pluralité.
Et il faut accepter cette pluralité. Voilà. Nous avons du mal avec la pluralité aujourd'hui, alors que nos sociétés étaient plurielles, totalement assumées. Moi, je me souviens que, par exemple, dans mon enfance, enfin, ou en tout cas, ce qu'on nous racontait, c'est qu'il y avait des roulèmes chez nous. Les roulèmes, c'était des personnages qui naviguaient, par exemple, sur la question des sexes et des genres. Ce qui a figé la notion de genre au Maroc, c'est la colonie. Mais oui, ce sont les coloniaux qui ont imposé, en fait, les catégories hommes, femmes. Ça circulait très librement. Et à l'époque, c'était déjà des transgenres, mais qui ne se disaient pas, en fait, qui étaient des roulins, mais c'était une tradition complètement acceptée chez nous. Il y avait une très grande tolérance vis-à-vis des identités individuelles. Parce qu'au fond, ce qui comptait, c'était comment on se comportait dans la communauté. Et au fond, ce que vous êtes, individuellement, intimement, ne concerne pas la société chez nous. Il y a une manière de porter les combats, justement, et qui consiste à ne pas établir cette confusion. Je crois que c'est une très grande protection de pouvoir être qui on est. Parce que Foucault, par exemple, dans son ouvrage sur la sexualité, il examinait ce qu'il appelait, même dans certains de ses textes, la société de transparence, avec le panopticon. Chacun doit être transparent et tout ce que nous sommes doit être visible. Pas forcément. Ça aussi, on peut revendiquer l'invisibilité. L'invisibilité, ouais. C'est aussi une paix, une retraite.
Mais choisie, pas imposée.
Pas imposée, choisie. On n'est pas obligé de tout dire, de tout afficher, de tout. Ouais. Voilà. Donc, je crois qu'il faut retravailler ces concepts et ces catégories qui nous ont été imposées et qui, au fond, ne correspondent pas du tout à nos imaginaires sociaux.
Ouais. Et ouais, justement, en t'écoutant parler de ce programme-là, ça me fait beaucoup penser, par exemple, au concept de la Twiza.
Oui, Twiza, voilà. Sauce. Tout à fait. Bien sûr. Ouais. Il y a la Twiza.
Il y a un programme déjà là. Il faut juste l'adopter. Hein.
Et on peut l'élever au rang de concept étatique.
C'est ça.
Solidaire.
De proposer au monde.
Mais bien sûr, complètement. Mm-hmm. Bien sûr. Et il y en a d'autres. Mm-hmm. Il y en a d'autres. Hein. Moi, je me souviens, par exemple, je disais toujours ma grand-mère maternelle, quand elle était facile, et il y avait des swabs. Mm-hmm. Alors, on nous disait, bon, je ne sais pas le flan. Et moi, j'étais énervée, je disais, couche la baisse. Mm-hmm. Elle me tapait sur la main, elle me disait, couche la baisse. N'est-ce que c'est le flan ou le flan? Est-ce flan ou flan? Raoumek. C'est-à-dire, je m'adielk.
Magnifique, ouais.
Et quand les gens nomment ceux qui sont les tiens, ils te disent que tu ne t'es pas fait tout seul. Tu es lié à un tel et un tel et un tel et un tel. Donc toi, tu réponds en les reliant à ceux qui les ont faits. Tu ne t'es jamais fait tout seul. Tu as toujours été fait par ceux qui t'entourent et qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, qui t'ont soigné, qui t'ont réparé, qui t'ont nourri. Et donc au fond, on ne peut pas se définir comme un individu. Tous, on est un individu, mais on est aussi le fruit d'une solidarité. Ouais. Le fruit d'une communauté. Mmh. Et c'était très intelligent de sa part, je ne me rendais pas compte. Non, je me disais, mais qu'est-ce qui m'embête? Qu'est-ce que c'est que ces trucs 10 minutes à dire les gens, les noms de gens? Mais c'est quoi ce truc? C'est une perte de temps. Et c'est en vieillissant, c'est en mûrissant que je me suis rendu compte à quel point c'était intelligent, à quel point c'était pertinent.
Oui, et puis il y a de la patience dedans, il y a de prendre son
temps. Le temps du sawab, le temps du sawab, c'est le temps accordé à l'autre, c'est le respect des identités.
Il est réparateur.
On parle tellement, mais bien sûr. Bien sûr, je te connais et je connais ta tante et ta mère et ta grand-mère et tes cousins et machin. Et ça veut dire que je sais ton commun et je te présente mon commun. Mmh. Et là, on rentre en relation. Et ce qui rentre en relation, ce sont deux communs. Mmh. Et ça fait un plus grand commun.
Ouais.
C'est tellement plus riche.
C'est clair. C'est vraiment... Et c'est très beau. Hein. Ça donne beaucoup d'espoir, je pense. Moi, j'aimerais en tout cas vivre dans ce monde-là.
Bah oui. On a les moyens de le vivre parce que nous l'avons en nous. Nous le connaissons, ce monde, et nous le transmettons à nos enfants. Et les femmes le transmettent. Moi, je les transmets à mes fils. Ils sont parfaitement conscients de tout ça. Ils sont à la fois complètement impliqués dans la modernité technologique, etc. Mmh. Et en même temps, ils sont parfaitement conscients de leur communauté. Et c'est très important. Mmh. Et puis, de pouvoir, quand on est conscient de sa communauté, on est conscient qu'on peut construire une communauté avec d'autres. Mmh. Et donc, on n'est pas enfermé dans une communauté. Ce n'est pas une communauté qui enferme. C'est une communauté qui ouvre à la possibilité du commun. C'est très important. Et je crois que nous avons, en tout cas, dans notre société, les moyens, les valeurs, les outils, et dans tout le, ce qu'on appelle communément, enfin, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, au Bénin, je crois que l'Afrique, elle sait faire ça. Mmh. Elle sait le faire très bien. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser désinnerver. Il ne faut pas accepter de le perdre. Il faut le cultiver et il faut le porter plus haut, en fait. Et plus loin, en le conceptualisant peut-être et en faisant un outil politique, un outil pour justement vivre avec les autres.
Yasmine, tu as parlé de tes fils. Il y a une question qui me traverse l'esprit là et j'ai envie de te la poser. Comment éduquer un homme, je dirais, peut-être pas féministe, mais en tout cas un homme qui féministe, n'est pas prisonnier de...
Non, féministe.
Féministe, ok.
Disons féministe, assumons.
Ouais,
C'est-à-dire un homme qui pense profondément qu'une femme est son égale, qui la respecte, qui sait respecter une femme, qui sait aussi en prendre soin, comme elle saura prendre soin de lui. C'est ça un féministe. Hein, et qui pense qu'une femme a autant de droits que lui. Mais je crois que c'est pas si difficile que ça. Il faut que les mères renoncent à instrumentaliser leurs fils. Ça veut dire qu'il faut que les mères s'extirpent du patriarcat. Parce que la grande puissance du patriarcat, c'est que la domination masculine produit des femmes patriarcales. C'est quoi une femme patriarcale? C'est une femme qui, pour être reconnue par le dominant, c'est-à-dire l'homme, va écraser d'autres femmes, c'est-à-dire ses belles-filles, d'accord, ou ses filles, pour plaire aux dominants et pour s'attirer ses bonnes grâces. Et en même temps, elle va utiliser son fils pour avoir du pouvoir. À défaut de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de se battre en étant féministe pour avoir l'égalité des droits, elle va utiliser son fils comme un instrument de pouvoir. En fait, les mères instrumentalisent leur fils pour acquérir du pouvoir au détriment d'autres femmes. Et je crois que... dans un système patriarcal clos. Et donc, je pense qu'une femme féministe n'a pas besoin d'instrumentaliser son fils, hein, parce qu'elle est forte, elle connaît sa force, elle sait qui elle est, et donc son fils peut être qui il est, en dehors de sa mère, et donc il peut aimer et respecter une autre femme. Donc je crois que le grand travail que les femmes ont à faire, c'est sur elles-mêmes. Ouais. Pour pouvoir bien élever un garçon, il faut s'affranchir du patriarcat. Il faut être féministe.
Oui, peut-être, ouais, y a du coup le travail des femmes. Parce que moi, la question que je me pose des fois et que bah, beaucoup de gens me posent du coup aussi, c'est que supposons qu'on a cet homme féministe, en fait, c'est dans, ou cet enfant ou ce garçon féministe, dans quel monde, dans quelle société il va évoluer ? À l'école, on va le pointer de doigt ? Parce qu'en fait,
pas du tout.
Ça peut pas être un travail individuel, mais peut-être plus politique.
Moi je, crois que, moi, je crois que ça va de pair. Okay. Non, je ne crois pas. Je crois qu'un homme qui respecte les femmes est un homme qui est respecté, en fait. Ouais. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Ouais. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on respecte une femme qu'on perd en masculinité. Mm-hmm. Attention, ça ne met pas en péril la virilité d'un homme.
Ouais.
C'est ça, le problème. Le problème, c'est qu'on a confondu la puissance d'un homme. Plus un homme amoindrit les femmes, plus il est puissant.
C'est ça.
Oui,
ça,
non. Mais cette mécanique, elle est. Quand un homme n'amoindrit pas sa femme, il est respecté. Il y a des hommes très respectés et qui respectent profondément leurs femmes, leurs épouses, leurs mères, leurs filles, leurs sœurs. Pas du tout. Et au fond, je crois que le besoin de dominer les femmes pour exister comme homme, c'est le signe d'une très très grande fragilité. Et là, on parle de fragilité.
C'est sûr.
Si on a besoin d'écraser pour exister, c'est qu'on n'existe pas.
Ouais.
Si on existe, on ne peut écraser personne. C'est pour ça que je vous dis, une femme forte, elle élève des fils forts. Et c'est quoi des fils forts ? Mais c'est des fils qui respectent les femmes. Parce qu'ils se respectent eux-mêmes.
Ouais.
Si on se respecte, on respecte l'autre. Si on a été respecté, on sait respecter l'autre. Si votre mère vous a respecté, c'est-à-dire le respect, ça n'est pas l'hypervalorisation du garçon. Le respect, c'est éduquer un garçon pour qu'il soit lui-même respectueux et autonome, c'est-à-dire qu'il puisse accomplir des tâches ménagères, qu'il puisse se prendre part à l'économie de la maison, qu'il puisse, au même titre que sa sœur, qu'il puisse... Et ça fait des hommes forts. Ça fait des hommes qui n'ont pas besoin d'asservir une femme pour être un homme. Parce qu'on ne leur a pas mis dans la tête que leur statut d'homme leur donne des droits extraordinaires. On leur a mis dans leur tête qu'être un homme, c'est être un humain, comme une femme. Et donc le féminin n'est plus dangereux. On n'a plus besoin de le mater, en fait. Hein.
C'est ça, ouais.
On peut accompagner une femme, tranquillement. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour être une mère qui éduque bien ses garçons, il faut être féministe. C'est-à-dire qu'il faut aimer être une femme. Mais les femmes ne s'aiment pas. Beaucoup de femmes ne s'aiment pas. Elles apprennent en ce moment à s'aimer au Maroc. Ça va mieux. Je crois que ma génération, ça va mieux.
Bah, ça donne beaucoup d'espoir, du coup. Oui. Yasmine, on va commencer à atterrir un petit peu. Et je vais te poser la question sur... un peu utopique, à quoi ressemblerait...
Non, tu n'atterris pas là, tu décolles.
c'est vraiment la... J'ai décidé de consacrer la dernière partie de ma chirurgie là, justement pour imaginer ce monde dont on aimerait vivre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Bah, justement, bah, des hommes, mais aussi des personnes, quand ils entendent parler d'un projet féministe, ils pensent que c'est vraiment...
Contre les hommes.
C'est ça, c'est comme un monde où les femmes vont dominer...
Pas du tout.
Ouais.
C'est un homme où les hommes et les femmes vont enfin vivre ensemble, ensemble harmonieusement, à égalité. Et l'égalité, ça n'est pas l'identité, pas identiquement, mais à égalité de droits. C'est très, très important, l'égalité des droits. Et on n'y est pas encore au Maroc. On n'y est pas encore en Afrique, loin de là. Et tant qu'il n'y aura pas d'égalité de droits entre les hommes et les femmes, il n'y aura pas de possibilité de démocratie. De toutes les manières. Parce qu'on ne peut pas vivre avec la moitié d'un peuple opprimé. D'accord ? C'est un apartheid, en fait. Si les filles n'héritent pas comme les garçons, c'est un apartheid. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi ?
Ouais. Ça empêche beaucoup d'amitié de se créer entre. Enfin, c'est dommage qu'il n'y a pas de.
Ça empêche que l'amour et l'amitié aillent de pair.
Ouais.
Et ça fait de l'amour un champ de bataille. Terrible, violent.
Ouais.
Parce que l'inégalité ne permet pas l'amour. Elle n'autorise pas l'amour. Le patriarcat, il entrave autant les hommes que les femmes. Il faut que les hommes comprennent ça.
Ouais.
Il faut qu'ils comprennent que le combat émancipateur des femmes est un combat qui les émancipe.
Ouais.
C'est très important.
Ça émancipe tout le monde, en fait.
Il y a un très beau texte de Mona Chollet, que j'aime beaucoup, hein, qui s'intitule « Ce que le patriarcat fait aux hommes ». Et il faut le lire, c'est très intéressant.
Yasmine, une dernière question. Comment ma chère Rojola résonne chez toi quand tu entends l'expression ?
Rojola, pour moi, c'est très honnêtement, ce sont des valeurs d'honneur. Rajel, pour moi, c'est l'honneur, c'est la protection, c'est le soin. Donc, ma chère Rojola, ça veut dire. Tu n'es pas un humain, tu n'es pas un homme, parce que ni tu protèges, ni tu es un homme d'honneur, ni tu es un humain d'honneur, ni tu soignes. Qu'est-ce que tu as alors? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Et ça parle à beaucoup d'hommes, je crois, dans notre société. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont des gels, c'est-à-dire qui assument, qui soignent, qui aident, qui... Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on croit.
Ouais.
Mais il y a des discours aussi religieux pleins de confusion, il y a des fausses valeurs qui circulent, il y a des représentations qu'il faut défaire. Il faut peut-être, il y a un vrai travail à faire de déconstruction, en fait, des imaginaires collectifs, en fait,
ouais.
Hein, sur ce que c'est que la virilité, ce que c'est que le masculin. Il y a un très beau livre que je recommande de Nadia Tazi qui s'appelle Le genre intraitable, qui est paru aux éditions Actes Sud il y a peut-être 5 ou 6 ans. C'est pour moi une œuvre majeure, en fait, hein, qui rappelle que dans les sociétés arabo-musulmanes, il y avait d'un côté le viril, la razia, la conquête, les cavaliers, etc. Et il y avait de l'autre côté l'edeb. L'edeb, c'est le masculin. Et c'est le masculin civilisé, au sens de civil, civique, c'est-à-dire qui est capable de créer du commun politique. Et je crois qu'il faut aller vers l'edeb.
Yasmine, merci beaucoup.
Je
merci pour cet échange inspirant.
Merci.
Et riche d'espoir.
Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité.